Un passage qui se situe dans la suite du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc, que l'on entend depuis quelques dimanches. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas, avons-nous entendu il y a 15 jours. Ou encore, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'était la semaine dernière. Tandis que Jésus promet à ceux qui le suivent le centuple de ce qu'ils auront quitté à cause de Jésus et de l'Évangile. Précise Jésus, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voyez que déjà, ces derniers dimanches, se profilait une manière nouvelle de penser la grandeur et la richesse. Pourtant, avant l'évangile d'aujourd'hui, trois versets ont été sautés dans la lecture de ce chapitre 10 de saint Marc. Trois versets qui précisent que Jésus a pris la route de Jérusalem et qu'il est suivi de ses disciples, saisis de frayeur à cette perspective. Et c'est alors que Jésus s'adresse aux 12 et leur annonce pour la troisième fois sa passion et sa résurrection. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et trois jours après, il ressuscitera. Voilà Jésus de plus en plus précis sur les annonces de sa passion prochaine. Et c'est alors que Jacques et Jean s'adressent à Jésus, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Et nous, qu'est-ce que nous pensons de cette demande de Jacques et Jean ? Accorde-nous de siéger à ta droite et à ta gauche. Que pensons-nous de leur détermination quand ils affirment « Nous le pouvons » alors que Jésus leur dit « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Je crois qu'à première vue, on pourrait s'indigner tout autant que les autres apôtres trouver Jacques et Jean bien prétentieux, bien présomptueux. Pourtant, Jésus ne les remet pas à leur place. Au contraire, il précise à quoi il faut s'attendre si on veut être disciple de Jésus. Vous vous souvenez peut-être des annonces précédentes de la passion et de la résurrection de Jésus. Elles s'étaient heurtées à une fin de non-recevoir. « Cela ne t'arrivera pas », avait même dit Pierre. Et lui s'était attiré les reproches de Jésus. Or voilà que Jacques et Jean montre qu'ils ont entendu la perspective que Jésus leur propose, la gloire du royaume. Eh bien, nous faisons la même chose chaque dimanche. C'est ce que l'on appelle l'anamnèse. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, l'attente du chrétien, l'attente du disciple de Jésus, c'est bien de le rejoindre un jour dans sa gloire. Ainsi, la démarche des deux disciples, eh bien finalement, c'est aussi la nôtre. Nous aussi, nous pouvons avoir de grandes ambitions quant à notre désir de prendre place dans le royaume. Seulement voilà, Jésus nous prévient tout autant qu'il l'a fait pour Jacques et Jean. Cela demande de suivre les règles du royaume. Être apôtre, ça n'est pas faire partie du gouvernement de Jésus et d'en accueillir le pouvoir. La règle du royaume, c'est l'amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et donc, avec cette règle d'amour, le plus grand, c'est celui qui sait le plus servir, qui sait le plus aimer les hommes. Et évidemment, Jésus incarne ce service. Mais c'est un art de vivre qui est proposé aux chrétiens. Un art de vivre que je vais illustrer à travers trois rencontres que j'ai faites ces dernières semaines, qui m'empêchaient d'ailleurs d'être parmi vous ces derniers samedis. J'ai eu une rencontre avec des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui avaient cette question: quelle richesse chercher? Un intervenant nous aidait à réfléchir sur ce qu'était la vraie possession. Et il avait pris l'exemple d'une flûte. Il demandait: qui possède la flûte? Celui qui la détient ou celui qui sait en jouer? Être propriétaire d'une flûte sans savoir en jouer ne sert à rien. La seule chose possible, à part la ranger, c'est de la vendre et donc de s'en déposséder. Il nous invitait ainsi à repérer que c'est l'usage qui fait la vraie possession. Ne m'appartient que ce que j'ai reçu pour le donner après l'avoir fait fructifier. Voilà donc la vraie richesse à chercher. Et il y a 8 jours, dans un colloque à la Cato de Lille, qu'organisait l'hebdomadaire La Vie sur l'écologie comme espoir pour le 21e siècle, nous étions sensibilisés aux enjeux de s'engager pour une transition écologique qui respecte la planète. Et j'ai retenu 3 mots de Gilles Boeuf, un spécialiste de la biodiversité. Il dénonçait 3 attitudes de l'espèce humaine qui étaient nuisibles pour toutes les espèces, y compris la nôtre. Il citait l'imprévoyance, l'arrogance et la cupidité. Or, on voit que l'Évangile suggère un autre chemin. À l'imprévoyance, Jésus oppose une marche lucide et courageuse vers le royaume de Dieu, qui doit être l'horizon de notre vie. À l'arrogance, Jésus oppose le sens du service et du don de soi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Et enfin, en réponse à la cupidité, Jésus invitait l'homme riche désireux de la vie éternelle: une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Oui, notre trésor incorruptible, il est au ciel. Oui, nous avons le droit à des désirs de richesse et de grandeur, mais ne nous trompons pas ni de richesse ni de grandeur. Choisissons la vraie richesse et la vraie grandeur. Autrement dit, choisissons la sainteté. Et j'en viens à mon 3e exemple. Je vous disais que j'étais de retour d'Assise et nous avons entre autres médité l'exhortation du pape François, la joie et l'allégresse, qui nous appelle à la sainteté. Le pape nous y invite à être éveillés et confiants. Je cite: le progrès du bien, la maturation spirituelle et la croissance de l'amour sont bien les meilleurs contrepoids au mal. Personne ne résiste s'il reste au point mort, s'il se contente de peu, s'il cesse de rêver de faire au Seigneur un don de soi plus généreux, encore moins s'il tombe dans un esprit de défaite. Voilà, le pape nous invite à ce qu'il appelle la sainteté de la porte d'à côté. Et je crois que dans les perspectives que notre paroisse se donne cette année, dans l'ouverture aux autres, nous pourrons trouver notre propre chemin de sainteté, découvrir qu'il est source de paix et joie que nous offre l'Esprit, et qui tout en même temps nous demande, comme le dit le pape François, que nous soyons avec les lampes allumées, attentifs et vigilants. Voilà ce à quoi je nous invite pour les semaines et les mois à venir. Puisons-y notre force notre joie, notre sainteté. Amen.